Bonjour tout le monde. Très heureux d'être avec vous ce matin pour apporter la parole. Merci beaucoup, M. Bridgman, pour l'invitation. Merci de m'offrir le privilège de prendre la parole ici ce matin. Je vous invite à tourner avec moi dans l'Évangile de Marc au chapitre 10. C'est un message qui est tiré d'une étude que je fais à Trois-Rivières-Ouest sur l'Évangile de Marc que j'ai appelé « La croix du roi ». Mais on va regarder seulement un texte ce matin dans l'Évangile de Marc, chapitre 10, et à partir du verset 32 jusqu'au verset 45. Marc 10, 32. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir. Et, trois jours après, il ressuscitera. » Les fils de Zébédée, Jacques et Jean s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. » Et Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisé du baptême dont je sois baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. » Les 10, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » On va prier. Seigneur, on est reconnaissant pour ta parole. Merci pour la révélation que tu nous as donnée. Merci pour ces enseignements. Et comme il a déjà été mentionné, Seigneur, tu connais les besoins de ton peuple. Que ta parole ce matin puisse parler à chacun d'entre nous, qu'elle puisse parler à ton Église ici au Cap de la Madeleine. Dirige-moi par ton Saint-Esprit, garde-moi dans l'humilité et permets, Seigneur, que ta parole puisse avoir autorité dans chacune de nos vies. Dans le nom de ton Fils. Amen. C'est déjà la troisième fois que le Seigneur Jésus annonce sa mort et c'est la dernière fois. Il le fait avec une précision qui est renversante. Jésus va annoncer tout ce qui va lui arriver à Jérusalem, puis il va rentrer très bientôt à Jérusalem. Il lui reste qu'un bref passage au travers de Jéricho, où il va guérir un aveugle, et tout de suite après, il va se diriger vers Jérusalem pour son entrée triomphale. Non seulement Jésus annonce sa mort, ou il annonce ce qui va lui arriver, mais il annonce la véritable raison de sa venue. Accomplir le plan de la rédemption. Préparer avant la fondation du monde. Et c'est là qu'on est rendu maintenant. Mais ce qui est intéressant dans les annonces que Jésus fait de sa mort, c'est pas juste la précision qu'il donne, c'est pas juste à quel point il connaît tout ce qui va lui arriver. C'est les contextes dans lesquels c'est donné. Je vais le faire très très rapidement, mais dans les trois annonces que Jésus fait, il y a toujours un contexte dans lequel c'est fait et c'est les leçons doivent être sorties de ce contexte-là. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. Au chapitre 8, verset 31, Jésus, lors de sa première annonce, où Pierre vient de confesser « Tu es le Christ, tu es le Messie », tout de suite après, Jésus, ben, « Faut que j'aille mourir sur la croix ». Et tout de suite après, qu'est-ce que Jésus dit? « Vous voulez être mes disciples, mais vous aussi, vous devez porter votre croix. Vous devez renoncer à vous-même et vous devez me suivre. » Donc, en rapport avec l'annonce de sa mort, Jésus enseigne les disciples à être des vrais disciples. « Tu portes ta croix, tu renonces à toi-même, puis tu me suis. » Au chapitre 9, verset 31, dans sa deuxième annonce, Jésus se sert de son annonce pour parler aux disciples qui, entre eux, discutaient pour savoir lequel était le plus grand. C'est particulier, ça. Les disciples ont devant eux le plus bel exemple d'humilité. Jésus vient d'annoncer sa mort, ce qu'il s'en va accomplir à Jérusalem. Les disciples, eux, en chemin, ils veulent savoir c'est lequel qui est le plus grand. Jésus est en train de leur dire, au chapitre 9, « L'orgueil n'a pas de place dans le royaume des cieux. » Et ici, dans ce chapitre-là, Jésus va comme pousser la leçon un peu plus loin. Si à sa deuxième annonce, il a dit que l'orgueil n'avait pas de place, ici, il est en train de dire que l'humilité doit prendre place plutôt que l'orgueil. Non seulement il n'y a pas d'orgueil dans le royaume de Dieu, mais c'est l'humilité qui doit caractériser les enfants de Dieu. Et sur quelle base on doit s'humilier? Mais sur la base de Jésus-Christ qui s'en va mourir à Jérusalem. Jésus va donc démontrer d'une manière beaucoup plus explicite qu'est-ce que c'est l'humilité et comment le croyant doit être caractérisé par l'humilité. Être un vrai disciple, c'est pas juste de porter sa croix, de suivre le Seigneur Jésus, de renoncer à soi-même. C'est pas juste de ne pas être orgueilleux, mais c'est également d'être humble. D'où le titre de ce matin, « La véritable grandeur dans le royaume des cieux ». La véritable grandeur dans le royaume, ou de la véritable grandeur dans l'Église locale. Ce n'est pas ceux qui ont des titres, ce n'est pas ceux qui sont en vue, ce n'est pas ceux qui sont toujours au-dessus de tout. Ce sont ceux qui sont prêts à s'humilier comme le Seigneur Jésus lui-même est prêt à s'humilier. Je pense que Jésus attire l'attention sur la véritable grandeur dans le royaume de Dieu et cette véritable grandeur-là, on la retrouve dans l'humilité, qui est la contrepartie de l'orgueil. Dieu ne demande donc pas seulement de ne pas être orgueilleux, mais il recherche l'humilité. Et de quelle manière cette humilité-là va s'exercer? C'est fort simple dans le contexte et dans le texte qui est devant nous. C'est dans le service les uns pour les autres. De quelle manière nous serons des croyants humbles? Eh bien, c'est si on fait comme le Seigneur Jésus lui-même le dit, qu'on réalise et qu'on se voit comme des serviteurs et des esclaves. Les uns pour les autres, dans l'Église locale. Mais je veux pousser cette leçon-là plus loin que ça. Je veux qu'on la sorte de nos murs puis qu'on amène ça aussi, cette pensée-là, dans nos foyers à la maison. Pour ma femme, pour mes enfants. On pousse ça pour nos voisins, pour nos amis à l'école, pour nos professeurs à l'école. On est des esclaves et des serviteurs parce qu'on est des croyants humbles. Et qu'on reconnaît ce que Jésus-Christ a accompli dans l'humilité en allant mourir sur la croix. Remarquez le verset 43, où Jésus vient tout juste de dire que les grands tyrannisent puis que les grands dominent. Et au verset 43, il dit « Il n'en est pas de même au milieu de vous ». Toute la leçon, tout l'enseignement que Jésus donne sur sa propre mort à Jérusalem, sur l'humilité qui l'anime, mais c'est parce qu'il ne veut pas que les croyants ou que les douze soient orgueilleux. Puis il ne veut pas qu'aujourd'hui, dans nos églises, dans nos vies quotidiennes, avec nos femmes, avec nos enfants, avec nos patrons, nos employés, il ne faut pas qu'on soit animé de cet orgueil-là, mais que ce soit l'humilité qui nous anime, la vraie caractéristique du croyant. Rapidement, ce matin, on va regarder l'annonce, versets 32 à 34, la demande des deux fils de Zébédée, hein, Jacques et Jean, qui veulent être assis à droite et à gauche, et finalement, les deux exemples que Jésus donne, les grands qui tyrannisent et la sienne à lui. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Voici le vrai exemple d'humilité. L'annonce est assez particulière. Jésus s'en va à Jérusalem, j'ai parlé du contexte, va rentrer triomphalement très bientôt à Jérusalem, un faux couronnement, mais c'est son dernier voyage à Jérusalem pour Jésus. Il s'en va mourir sur la croix. Car lorsqu'il rentre triomphalement à Jérusalem, bon, les commentateurs ne s'entendent pas si c'est dimanche ou lundi, là. Mais nous, on le sait que c'est le vendredi qu'il va mourir. C'est là que Jésus est rendu dans son ministère, là. Pensez-y, le plan préparé avant la fondation du monde. Ça fait un bout, ça. Il va maintenant s'accomplir. C'est le dernier voyage de Jésus à Jérusalem. Et remarquez, pourquoi je place tout ça, remarquez ce que le texte nous dit. Et Jésus allait devant eux. Moi, si je sais que je m'en vais mourir à Jérusalem, là, je marche en arrière. Caché, puis allez-y les gars devant moi, là, puis tu sais, moi, je vais garder ça low profile, là. Selon la coutume rabbinique, c'était comme ça que ça devait se passer. C'est normal que Jésus marche devant eux. C'était comme ça que ça devait arriver. Mais ça démontre surtout la détermination inébranlable que Jésus a d'aller mourir à Jérusalem. C'est tellement particulier que, qu'est-ce que ça fait? Deux réactions pour les disciples. Premièrement, ça les trouble. Puis ils suivent avec crainte. Qu'est-ce qui va leur arriver à eux autres. OK, bon, on connaît les textes, là, mais rien de semblable à ce qui va arriver à Jésus. Puis c'est eux, dans leur cœur, qui sont troublés, puis ils sont dans la crainte de voir Jésus être déterminé comme ça d'aller mourir à Jérusalem. Le terme « troublé », littéralement, ça désigne l'ahurissement. Les disciples sont paralysés par la peur, sont incapables de saisir ce qui est en train de se produire, puis ils ne sont pas capables de réagir à ça. Puis ils marchent dans la crainte. Quelle crainte! Ils viennent de placer leur espoir en Jésus, c'est le Messie. Puis là, lui, il s'en va mourir à Jérusalem. Tout leur espoir messianique, là, ça vient de prendre le bord, là, parce que dans leur tête, le Messie s'en va pas mourir, il s'en va régner à Jérusalem. Puis Jésus dit, on s'en va à Jérusalem mourir. Ils sont dans la crainte, là. Notre Messie qu'on a trouvé, il n'est pas supposé mourir. Et qu'est-ce que Jésus fait? C'est à ce moment-là que Jésus annonce sa mort. Comment l'annonce de la mort de Jésus va réconforter les disciples qui sont troublés et qui sont dans la crainte? Tu sais, moi, je me dis un jour, j'arrive chez nous, puis là, ma femme, mes enfants sont dans le salon, puis ils sont collés, puis ils pleurent, puis ils sont dans le trouble, dans la crainte. Puis moi, je m'en vais les voir pour les réconforter, puis je leur dis, oh, écoutez, faites-vous-en pas, demain à mon travail, là, je vais poser une fenêtre au deuxième étage, l'échelle va glisser, puis je vais mourir. Comment ça peut les réconforter? C'est ça que Jésus fait. Les disciples sont troublés, sont dans la crainte, il les prend, puis il dit, faites-vous-en pas, je m'en vais à Jérusalem, là. Puis il va m'arriver telle affaire, je m'en vais mourir. Bien, je pense que Jésus agit comme ça parce qu'il est en train de préparer ses disciples à ce qui s'en vient. Les disciples ne sont pas pleinement conscients de ce qui va arriver à Jérusalem, puis il veut les préparer pour que ça soit plus facile à accepter. Mais l'autre chose que Jésus fait, il est en train de démontrer tout le contrôle qu'il a. La précision qu'il donne, il va m'arriver telle affaire, je vais ressusciter, je vais être livré aux païens, ils vont se moquer de moi. Puis Jésus est véritablement en train de démontrer qu'il est au contrôle de cette situation-là et qu'il la maîtrise parfaitement. Je veux me servir de ça ce matin pour qu'on s'encourage chacun d'entre nous. Ça se peut ce matin que tu aies le même sentiment que les disciples, tu es troublé et tu es dans la crainte. Peut-être à cause des événements que tu vis, peut-être parce que tu ne sais pas si tu vas avoir encore ton travail cette semaine parce que ça ne va pas bien au bureau. Peut-être parce que tu es enceinte puis tu vas vivre ta première échographie. Là, puis là, qu'est-ce que le médecin va dire? Es-tu correct? Peut-être que tu viens d'aller passer un examen chez le médecin parce que tu as une tumeur ou une bosse à quelque part. Puis, si tu es cancéreux, je vais-tu mourir ou c'est bénin? Tu sais, toutes ces situations-là, ça t'amène au trouble puis à la crainte. C'est normal. Mais il faut s'accrocher au fait que toutes ces choses-là, Jésus les contrôle et les maîtrise. Peu importe ce qui t'arrive dans ta vie cette semaine ou ce matin ou ce mois-ci, sache que Dieu est au contrôle de ces choses-là. C'est peut-être pour toi quelque chose de troublant, c'est peut-être pour toi quelque chose d'hyper difficile. Mais Jésus les maîtrise et les contrôle. Il est souverain dans toutes ces choses-là. Des versets qu'on connaît très bien, hein, le psaume 139, au chef des chantres de David, psaume éternel, « Tu me sondes, tu me connais, tu sais quand je m'assis, quand je me lève, tu connais de loin ma pensée, tu sais quand je marche, quand je me couche, bon, etc., etc. » Puis le texte se poursuit, « Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans les lieux secrets, tu sais, dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. » J'existais pas, puis Dieu me voyait. Pensez-vous que maintenant, aujourd'hui, que j'existe, il ne me voit pas? Puis qu'il ne prend pas soin de moi? Puis qu'il ne s'occupe pas de moi? Je ne comprends pas toutes les situations qui arrivent dans ma vie, puis il y en a que je trouve vraiment difficiles. Mais je m'accroche au fait que Dieu les contrôle puis qu'il les dirige. Je suis obligé d'accepter Romains 8, 28, que tout concourt à mon bien. Je suis obligé de l'accepter. Parce que je sais que Dieu est derrière tout ça. La deuxième partie, c'est la demande. Écoutez, on a Jacques et Jean qui ont vécu des choses importantes avec Jésus. C'est eux autres qui étaient à la Transfiguration. Pierre, Jean, Jacques, ils ont monté sur la montagne, là. c'est eux qui vont se retrouver dans le jardin de Gethsémané. On peut penser que Jacques et Jean avaient des ministères ou des rôles importants au travers des douze. Ce qui les pousse peut-être à demander au Seigneur Jésus, on peut-tu être assis un à ta droite puis un à ta gauche? Puis même Matthieu nous dit que leur mère est derrière ça. Moi, quand je lis la Bible, je me fais des bonhommes dans ma tête. Puis là, j'imaginais leur mère dire, « Allez-y, les petits gars, allez voir Jésus, là. » Puis là, tu sais, elle les pousse, là. Puis là, ils vont voir Jésus, puis ils disent, « Quand tu vas rentrer dans ta gloire, là, on aimerait ça être assis un à ta droite puis un à ta gauche. » Wow, une minute, là. On s'entend-tu que dans le ciel, c'est les deux meilleures places, là? À droite puis à gauche de Jésus. Jésus est déjà à droite de Dieu, puis là, on va en mettre deux autres à droite puis à gauche. T'as peu, là. Sous quelle base Jacques et Jean peuvent demander ça? Ben, c'est pas compliqué. Dans leur tête, ils pensent qu'ils le méritent. S'ils vont voir Jésus, là, c'est parce que dans leur tête, ils sont sûrs qu'ils méritent cette place-là. Puis qu'est-ce qui les pousse à penser ça? Ben, c'est leur orgueil. Ils sont orgueilleux, Jacques et Jean, de demander cette chose-là. Ils ne se préoccupent pas des besoins des disciples tellement que ça va les choquer. On les comprend. Vous prenez pour qui, vous autres? Pourquoi ce serait vous autres qui seriez assis à droite et à gauche de Jésus? Je veux dire, on a fait la même chose que vous autres, là. Puis si on retourne juste un petit peu avant, là, Pierre, au verset 28, il va dire à Jésus, « Voici, on a tout quitté, on t'a suivi. Ça mérite quelque chose, ça. » Mais Jacques et Jean, ils ont pris ça au pied de la lettre, eux autres, ça mérite quelque chose. Puis eux, dans leur tête, à cause de leur orgueil, ben ils se disent, c'est assis à droite puis à gauche de Jésus. C'est ça qu'on mérite. Quelle requête orgueilleuse, choquante pour le groupe, se croyant certainement digne de cette position. Ils recherchent la gloire dans les lieux célestes. Cette demande démontre, c'est quoi le premier danger de l'orgueil? Ben c'est l'égoïsme. Ils n'ont pas pensé à personne d'autre qu'à eux-mêmes. Ils n'ont pas pensé à Jésus, puis ils n'ont pas pensé aux dix autres. Là. L'orgueil, c'est égoïste. C'est le premier danger. Et le deuxième danger, ben, c'est ta propre glorification. Augustin a dit ceci, « Deux amours ont fait deux cités, l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, la cité terrestre, l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, la cité céleste. L'une se glorifie en elle-même, l'autre se glorifie dans le Seigneur. » C'est clair que Jacques et Jean ils ont choisi la cité terrestre. Ils se sont dit, nous autres, on mérite la gloire à côté de Jésus dans le ciel. À droite, pas à gauche. La réponse de Jésus est extraordinaire. Tu sais, Jésus va vraiment leur montrer d'une manière très, très diplomate que ça n'a aucun sens, qu'est-ce qu'ils ont dit. Premièrement, Jésus va leur dire, ce que vous me dites, ça n'a aucun sens. C'est insensé de me demander ça. Pourquoi c'est insensé? Parce que c'est Dieu qui va décider c'est qui est assis à gauche puis à droite. Vous n'avez pas à vous préoccuper de ça, puis vous n'avez surtout pas à penser que vous le méritez. Dieu va le décider. Puis quand que ça va être le temps, faites-vous en pas, on va le savoir. Et je n'ai pas la prétention d'être assis à l'une de ces places-là. Et la deuxième réponse de Jésus, ou la réponse en deux temps, vous pensez recevoir la gloire, mais vous ne pensez pas passer par les souffrances. Jésus est en train de leur dire qu'il n'y a pas de gloire dans le ciel s'il n'y a pas de souffrance sur la terre. Et ça, c'est souvent un des problèmes des croyants. On pense à la gloire, mais on oublie que cette gloire-là, avec cette gloire-là, vient les souffrances. N'oubliez pas, frères et sœurs, il n'y a pas de gloire sans souffrance. C'est pour ça que Jésus va leur demander, « Pouvez-vous boire la coupe et être baptisé du baptême que je vais être baptisé? » De quoi il parle? Il vient de leur dire, la coupe et le baptême, là, c'est sa mort. Là. C'est ce qui s'en va subir à Jérusalem. C'est de cette coupe-là et de ce baptême-là qu'il s'en va, qu'il parle. Puis remarquez comment ils sont orgueilleux, Jacques et Jean. « Ben oui, on le peut! » Ils ne se prenaient pas pour n'importe qui, eux autres. Hein? Ben oui, on le peut. Non seulement ils sont orgueilleux, mais ils ne comprennent pas là, ce qui va se passer à Jérusalem. Là. Parce que quand Jésus leur dit, « Allez, pouvez-vous subir la même chose que moi? » Oui, 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 on va le subir. Puis moi, je pense que Jésus n'a pas compris leur réponse. Parce qu'il dit, « En effet, vous allez les subir. » Ce que Jésus est en train de dire, c'est pas compliqué. Jésus fait référence au fait que Jacques va être le premier martyr exécuté par Hérode Agrippa 1, en acte 12, alors que Jean, après avoir passé le temps sur l'île de Patmos, à la fin du 1er siècle, sous le règne de l'empereur Trajan, lui aussi va subir le martyr. Oui, ils vont souffrir, mais c'est le Père qui décide qui va être assis à gauche puis à droite. Quelle leçon pour nous ce matin? C'est quoi la leçon qu'on peut tirer de cette demande orgueilleuse-là et des réponses que Jésus donne? Comme Jésus l'affirme, le moyen d'obtenir la gloire éternelle, ce n'est pas une question de réussite, ce n'est pas une question d'honneur, ce n'est pas une question de position, mais c'est une question de souffrance. Voici ce que Paul dit en Romains 8, verset 18. « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » J'estime que les souffrances du temps présent, littéralement, c'est qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances que l'on vit et la gloire qu'on va avoir dans le ciel. Le terme « commune mesure », c'est ce que ça veut dire, c'est que je ne peux pas mesurer la longueur d'une fourmi avec un mètre. Ça va aller mal. Et je ne peux pas mesurer la grandeur d'un stade avec le même mètre. Il n'y a pas de commune mesure. Je ne peux pas mesurer ça comme ça. Puis ce que Paul dit, c'est « vous souffrez maintenant sur terre. Vous souffrez énormément, mais ça n'a rien à voir avec la gloire qu'on va avoir dans le ciel. » Mais cette gloire-là doit être accompagnée de souffrance. Pour avoir cette gloire-là, nous allons passer inévitablement par la souffrance. Paul dira plus loin en 2 Corinthiens 4, 17, « Car nos légères afflictions du moment présent... » Il se prend pour qui, lui, mes légères afflictions? C'est clair qu'il ne vit pas ma vie, lui. Mes légères afflictions... Faites-moi pas croire que qu'est-ce que vous vivez de difficile, vous les voyez comme des légères afflictions. Oh non, non. Mais pourtant, Paul, il dit, peu importe l'ampleur des souffrances, aussi difficiles soient-elles, c'est des légères afflictions. En comparaison avec quoi? Avec le poids éternel de gloire qui s'en vient. C'est clair que le croyant passe par la souffrance. Mais je me suis posé la question de quelle souffrance, par quelle souffrance le croyant passe. Et vous allez voir que je ne pourrais pas écrire un livre là-dessus parce que je n'ai trouvé juste deux. Ça va être un court livre, il ne sera pas publié à la publication chrétienne probablement. La première souffrance, excusez, je pensais que j'avais autre chose. La première souffrance, c'est celle qui nous est imposée. Je parle des persécutions, des épreuves, de la tentation. C'est les souffrances qui ont une source extérieure. Je n'ai pas de contrôle là-dessus. Puis Dieu les permet dans ma vie pour me faire grandir, pour affermir ma foi, pour que j'apprenne à mieux le connaître, à mieux me connaître moi-même même aussi, puis à savoir où est-ce que je dois m'améliorer, puis comment je dois grandir spirituellement. On connaît ce que la parole de Dieu dit sur ces événements-là. Les souffrances extérieures, les souffrances imposées. Je n'ai pas de contrôle. Mais il y a un deuxième type de souffrance. Et celui-là, c'est moi qui le contrôle. La persévérance dans l'épreuve, ça, c'est une souffrance. Et c'est bien plus facile d'abandonner dans l'épreuve que de persévérer dedans. Bien plus facile. Puis on souffre à chaque fois qu'on continue à persévérer dans l'épreuve. C'est une souffrance. Les sacrifices qu'on fait pour Dieu, c'est une souffrance, ça? Vous avez tous sacrifié quelque chose un matin? C'est dur. Tu sais, un temps de même, là, hein, rester dans les couvertes jusqu'à midi, là, on s'entend-tu que... Vous avez tous sacrifié quelque chose pour venir ici ce matin. Puis ça, c'est une souffrance. La lutte contre le péché, ça, c'est toute qu'une souffrance. Savez-vous quoi? Des fois, là, j'envie mon voisin que lui, il n'a pas besoin de lutter avec le péché parce que sa vie a de l'air tellement belle et tellement facile. Mais moi, là, parce que j'ai le Saint-Esprit, puis parce que la parole de Dieu me parle, il faut que je lutte quotidiennement avec le péché qui m'environne puis qui est autour de moi. Est-ce que tu souffrais, ça, lutter quotidiennement avec le péché? Quelle souffrance! Mais c'est encore plus souffrant de se laisser aller dans le péché. Le don de soi, les efforts que je vais faire pour le Seigneur, l'implication dans mon église, l'implication dans un ministère, l'œuvre de Dieu à laquelle je veux faire avancer, c'est toutes des souffrances que je m'impose moi-même, ça. Puis ces souffrances-là, bien, Dieu me dit qu'ils vont être récompensés par une gloire éternelle. Puis je trouve ça dommage parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on dirait que la vie chrétienne se dilue de plus en plus. J'ai l'impression que le verset préféré qu'on a aujourd'hui, les croyants, c'est « tout est permis ». Mais c'est parce qu'on oublie le restant, hein? On arrête à « tout est permis ». Tout n'est pas utile. De plus en plus, on se conforme au siècle présent. De plus en plus, on tolère des choses qu'on ne tolérait pas avant. Les vies chrétiennes se sont diluées. Les vieux qui étaient avant nous autres, là. Puis c'est pas méchant, OK? Il n'y a aucune méchanceté dans ce que je dis. Je trouve qu'ils nous ont laissé un héritage extraordinaire d'engagement, de dévouement. À la conférence d'Oula, j'ai vu M. Bottré, 94 ans, sur le bord de chez. Il shake de même, puis il vient d'écrire un livre, ça, d'épais, parce qu'il est dévoué puis il est engagé pour le Seigneur. Il a 94 ans, ce monsieur-là. Il nous a laissé un héritage extraordinaire. Puis nous, aujourd'hui, on est en train de diluer cet héritage-là. Imaginez si moi, j'étais en train de diluer l'héritage d'un homme comme Roy Bottré. Ceux qui me regardent, là, ça va juste s'en aller encore en diluation. OK? Je l'invente. Un matin, j'invente. Ça va juste continuer à se diluer. Puis ça va être quoi après l'autre génération? Parce qu'ils ne sont pas prêts à souffrir pour le Seigneur. On n'est pas prêt à souffrir comme M. Bottré fait aujourd'hui encore. Mais cette souffrance-là, il n'y a personne qui peut vous l'imposer. Je ne peux même pas le faire un matin. Vous pouvez juste vous-même vous l'imposer. Vous-même, personnellement, sous la direction du Saint-Esprit. Puis plus ça va être dur, frères et sœurs, mais pensez que plus la gloire sera grande dans le ciel. Si vous trouvez vos vies chrétiennes faciles, si vous trouvez que tout est le fun, il manque peut-être de souffrance. Il manque peut-être d'engagement, comme le Seigneur Jésus le demande. La troisième partie, c'est les exemples que Jésus donne. Tu sais, Jésus se sert de cette demande-là que les disciples lui posent. La question qu'il lui demande, il se sert de ce qu'il vient lui-même de dire, « Je m'en vais mourir sur la croix. » Puis là, Jésus, il dit, « Écoutez, vous voulez être grand. Vous pensez que vous êtes grand. » En me demandant d'être assis à droite puis à gauche, je viens tout juste de vous dire que moi, le roi des rois, je m'en vais mourir sur la croix. Puis vous autres, vous voulez la grandeur dans le ciel. Eh bien, Jésus va leur dire, « Voici c'est quoi la véritable grandeur dans le royaume des cieux. » C'est d'être des serviteurs humbles. C'est ça la véritable grandeur dans le royaume des cieux. Jésus va donner deux exemples. Celle des chefs religieux de l'époque, puis la sienne. Puis il va les mettre en contraste. La première, hein, il dit, « OK, regardez-les les chefs d'aujourd'hui, regardez-les ces grands-là. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils tyrannisent, puis ils dominent sur vous. » Il n'y a aucune humilité dans ces hommes-là. Puis Jésus, là, il veut leur dire, « Cherchez pas à acquérir la grandeur spirituelle par l'extérieur, mais la grandeur spirituelle se mesure par l'intérieur. » Jésus ne veut pas que les douze soient influencés par les gouvernants de l'époque qui sont ambitieux, autocrates, qui se valorisent, qui sont sûrs d'eux, qui sont arrogants, orgueilleux, tyranniques et dominateurs. Et c'est ce que Jésus va dire. Les grands, là, les chefs de l'époque, ils vous tyrannisent. Qu'est-ce qu'ils font? C'est un terme fort qui véhicule l'idée de régner sur un peuple en les écrasant. Il y a l'idée qu'ils utilisent leur pouvoir pour vous dominer. Ils ont cette position-là de pouvoir, là, puis là, ils vous dominent, ils vous écrasent. Puis il va leur dire après, ils vous asservissent. C'est l'idée de dominer avec autorité sur quelqu'un. C'est-tu ça, des grands? C'est-tu comme ça qu'on va mesurer la grandeur spirituelle ou une grandeur dans le royaume des cieux avec des personnes qui tyrannisent, qui asservissent, qui dominent? C'est pas comme ça qu'on mesure la véritable grandeur spirituelle. Et c'est pour ça que Jésus va leur dire « Qu'il n'en soit pas ainsi au milieu de vous », verset 43. « Ne soyez pas comme ces grands-là, mais au contraire, voici comment vous devez être. » Verset 43, « Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais... » Moi, les « mais », Carl, ça m'excite dans la parole de Dieu, là, parce que ça avait toujours un contraste entre quelque chose, entre deux choses. Et là, Jésus le fait, le contraste. Il dit, « Vous avez le choix, il y a les grands qui tyrannisent et il y a autre chose. » Et c'est quoi le « autre chose »?« Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Voici pourquoi, frères et sœurs, nous devons être des serviteurs et des esclaves, parce que notre roi et maître a été celui qui s'est abaissé le plus bas possible. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de plus grande humilité que celle du Seigneur Jésus. Et ce que Jésus dit, c'est que vous avez le choix. Soit vous êtes des grands comme ce monde-là, ou vous êtes des grands comme moi dans l'humilité. Et Jésus va dire, vous devez être des serviteurs. Enfin, il est en train de leur dire que la véritable humilité, là, ben, c'est rempli de piété. C'est la vraie grandeur vient dans l'humilité. C'est comme ça qu'on reconnaît les grands. Puis il dit, vous devez être des serviteurs. Un serviteur, c'était l'échelon le plus bas à l'époque. Il n'est pas en bas du serviteur. Pour quelle raison? Parce que le serviteur, il avait peu de formation, il avait très peu de compétences. Le serviteur, on exigeait à peu près rien de lui sauf de servir. Mais Jésus poursuit en disant, être des serviteurs, c'est pas assez. Je veux que vous soyez des esclaves. Ah, là, c'est quoi la différence, ou c'est quoi la gradation qu'on a de plus? C'est que l'esclave, il ne s'appartient plus à lui-même. Le serviteur, il est encore maître de sa vie, mais pas l'esclave. L'esclave, il est le maître de celui qui l'embauche. C'est le maître, c'est l'esclave de Jésus-Christ. Tu ne t'appartiens plus. T'es pour quelqu'un d'autre, là. Jésus dit, vous voulez être grand spirituellement, là? Vous voulez avoir la véritable grandeur comme mon Père dans le ciel la veut, là? Soyez des serviteurs puis des esclaves les uns pour les autres. Car Jésus, c'est l'exemple à suivre. Verset 45. Il est la raison pourquoi on doit être humble. Parce que Jésus est venu non pour servir, mais pour donner sa vie. Et ça, c'est de son ministère entier, de la crèche à la croix. De la crèche à la croix, Jésus nous montre à quel point il est humble. Et il nous invite à revêtir cette humilité-là. Et là, nous serons des grands dans le royaume des cieux. Rapidement, je prends les 2-3 dernières minutes qui me restent pour vous parler de l'application pour nous ce matin. Puis, comme je disais en introduction, là, je veux qu'on sorte ça de notre Église. Là, okay? Oui, c'est pour l'Église, on est des serviteurs, des esclaves les uns des autres, là, mais on pousse ça en dehors des murs. Tu sais, mon voisin qui m'énerve là, parce qu'il fait sa tondeuse à 4 heures le matin. Là. C'est moi. C'est moi le voisin fatigué. Mais, bon, mettons que c'est pas moi. Dieu veut que je lui fasse du bien à ce voisin-là. Parce qu'il n'y a pas de limite hein, à être un serviteur pas un esclave, parce que Jésus a dit, fais du bien à ceux qui te maudissent. Prie pour ceux qui te maltraitent. OK? Fait qu'il n'y a pas de limite, là. On n'a pas d'excuse à ne pas le faire. C'est pour ça qu'on sort ça. On sort ça des murs de l'Église, OK? En Philippiens 2, versets 5 à 8, puis je vous lis dans la version Darby parce qu'elle représente beaucoup plus que ce qu'on a dans le texte original. On connaît très bien ce passage-là. Mais Darby dit « Qu'il y ait donc en vous cette pensée qui était aussi dans le Christ Jésus. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Littéralement, c'est « Ayez en vous la manière de penser de Jésus. » Et Paul va la décrire après la manière de Jésus. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais s'est humilié, s'est donné, s'est abaissé, il a pris une forme de serviteur, il est devenu un esclave. C'est l'humilité, là, je veux dire. L'humilité avec un grand H. Et ce que Paul dit, c'est « Ayez cette pensée-là dans votre tête. » Ça, ce que ça veut dire, là, c'est que dans ma tête à moi, là, je dois me considérer et je dois me voir comme un serviteur puis un esclave. Pour vous, pour ma femme, mes enfants, mes employés, toutes les gens qui m'entourent. Et comme ça, je serai grand dans le royaume des cieux. Parce que je suis humble. Ayez en vous cette manière de penser. Quand on se lève le matin, faut que dans ma tête, je me dise, non. Je suis un esclave et je suis un serviteur. Qu'est-ce que les gens ont besoin? Qu'est-ce que les gens veulent que je fasse pour eux? Et je n'ai pas à m'attendre que les gens soient comme ça envers moi. Ce que la Bible elle me dit, c'est toi, sois ce serviteur-là et cet esclave-là pour les gens autour de toi. La vraie grandeur se voit donc dans l'humilité. Frères et sœurs, les vrais leaders dans nos églises, ce ne sont pas ceux qui ont les titres, ce sont ceux qui font comme le Seigneur Jésus, qui sont prêts à s'abaisser devant vous et à vous laver les pieds. De manière figurée, évidemment. Mais ce sont eux, nos vrais leaders, ceux qui sont prêts à s'humilier puis à s'abaisser, comme Jésus l'a fait. Soyons donc ces leaders-là, dans nos églises, dans nos foyers, partout où on passe. Reflétons la vraie grandeur dans le royaume des cieux qui est l'humilité. Je vous laisse avec une image que je trouve extraordinaire, qui reflète qu'est-ce que c'est un leader humble. T'es soit un boss qui est assis à sa mission puis qui fouette les esclaves devant toi. Ça, c'est ceux qui tyrannisent, c'est ceux qui asservissent, comme Jésus l'a mentionné. Mais voici le vrai leader, c'est celui qui se place devant. Toujours la même mission, mais il se place devant et il dit, « Suivez-moi. Moi, je vais vous traîner. Moi, je vais m'humilier, puis moi, je vais m'abaisser, puis on va faire avancer la mission. » Voici la véritable grandeur dans le royaume des cieux, frères et sœurs. Et à l'exemple de Jésus-Christ qui s'est humilié au plus haut point, de la crèche à la croix, soyons-nous aussi remplis de cette même humilité. On termine par la prière. Père Céleste, Seigneur Dieu, quel texte merveilleux. Puis au travers de ce texte-là, on te remercie parce que tu as agi avec un amour, un très grand amour pour Jacques et Jean, mais avec tellement une grande leçon. Seigneur, on est conscient que par nous-mêmes, c'est impossible. Nous ne pouvons pas nous humilier de cette façon-là. Nous ne pouvons pas nous donner entièrement dans la souffrance comme que tu le demandes. Mais par ton Saint-Esprit, ce qu'on te demande, Seigneur, ce matin, c'est de nous diriger dans ce sens-là. Fais en sorte qu'on soit prêt à souffrir pour la gloire éternelle. Fais en sorte qu'on soit prêt à s'humilier pour être des grands comme le royaume de cieux le demande. Bénis ton peuple ici, Seigneur. Bénis toutes leurs œuvres, bénis tous leurs ministères. Bénis également les dirigeants, que ton peuple puisse grandir et croître dans ta parole. Dans le nom précieux de ton Fils. Amen.